À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour Jean Charmois.
Bonjour Frédéric.
Très content de vous retrouver. Alors on va parler de deux écoles, d'école d'Edesse et de Nisibe. Je vous propose de commencer par l'introduction que vous m'avez faite parce que les noms des écoles sont imprononçables.
Alors oui, il y a une grande école à Antioche de formation des chrétiens qui s'appelait l'Asketerion et une école similaire à Alexandrie, le Didaskaleion. Alors, dans l'un, on va retrouver Théodore de Mopsuès, d'Ordre de Tars. Dans l'autre, Origène, Clément d'Alexandrie, Cyril d'Alexandrie. Et on va, dans Aedes, puis enfin à Nisibe, va se développer une école liée à la langue syriaque et très importante, une des plus grandes écoles théologiques du christianisme. C'est Aedes fut la métropole ecclésiastique et littéraire de cette région. Elle est la porte par laquelle le christianisme venant de Syrie gagna l'Est et le Nord-Est, donc l'Iran et la Perse. Et alors c'est à Aedes, on l'a déjà vu, que fut élaborée la Peshitta, c'est-à-dire la version syriaque de l'Ancien Testament. Et on a vu aussi la réception controversée des œuvres de Tatien et de Bardesane d'Aedes, conflit qui opposait la science et la philosophie chaldéenne à la science et la philosophie grecque en tant que moyen d'expression de la foi chrétienne. Alors, après le concile de Nicée, l'évêque Jacques de Nisibe fonde une école de théologie dans sa ville, à Nisibe. Alors Nisibe, c'est une ville qui se trouve entre l'Irak et la Syrie. Ephrem le Syrien, qui est un natif de cette ville, va être un des professeurs de cette école. Mais l'empereur romain Julien subit une grande défaite en Mésopotamie et la ville de Nisibe est cédée aux Perses. Et donc l'école de Nisibe est transférée à Aedes sous la direction d'Ephrem le Syrien. Puis son rayonnement continue et l'auteur de référence de cette école d'Aedes va devenir Théodore de Mopsuès, à qui on a consacré une émission. Alors, les questions théologiques, les conflits théologiques entre Antioche et Alexandrie, dont on a déjà parlé, autour des questions relatives à la personne du Christ, vont émailler cette école d'Aedes de conflits récurrents. Alors, la théologie d'Antioche, et donc de Théodore Mopsuès, insiste sur la réalité humaine du Christ. L'homme tout entier est sauvé, y compris son âme, et donc sa psychologie. Avec le risque, dans lequel tombe Nestorius, de séparer dans le Christ une personne humaine et une personne divine. Par exemple, Marie n'est que mère du Christ. En face, la théologie d'Alexandrie, représentée par Cyril d'Alexandrie, insiste, comme saint Jean, sur le fait que c'est Dieu qui a l'initiative. C'est Dieu qui vient dans le monde, c'est Dieu qui vient assumer une nature humaine dans son unique personne divine. Donc Marie est mère de Dieu. Au risque dans lequel... La Théotokos. Au risque dans lequel tombent certains cyriliens, de refuser une double nature dans la personne du Christ après l'incarnation, en disant ben, plus qu'une seule nature divine. Et là, donc on voit bien que ces tendances et ces nuances sont encore des nuances d'aujourd'hui dans la manière dont on voit, dont on regarde le Christ. Est-ce que c'est plutôt un homme ou plutôt le Dieu qui vient parmi nous? Et ça c'est de façon, l'Orient va plutôt insister sur la venue de Dieu parmi les hommes, théologie johannique, et l'Occident va plutôt insister sur le fait que le Christ est complètement humain. Voilà. Alors, cette école d'Aedes va finir par être fermée par l'empereur en 489, suite à des conflits permanents entre les Cyriliens et les Antiochiens. Alors, du coup, l'école déménage et part et repart à Nisib, dont on a déjà parlé. Donc c'est voilà une école qui fait l'aller-retour entre l'Orient, enfin entre deux villes d'Orient. Et elle bénéficie donc du renom qui avait été acquis par l'école de Dédès. Hein. Et dans l'Église d'Orient, le concile de Bethlapate adopte officiellement la théologie de Théodore de Mopsueste comme doctrine officielle, doctrine que les catholiques et orthodoxes de l'époque considéraient comme une hérésie nestorienne. Alors cette position, on voit bien que le fonctionnement est quand même différent, et le roi de Perse de l'époque, vers l'an 500, prend nettement parti pour le courant théologique de l'école de Nisibe, qui est celle de la défense de Théodore de Mopsueste, et parce qu'elle permet de couper l'Église de l'Orient de l'Empire romain. Donc, en interdisant l'entrée de doctrines plus orientées vers Alexandrie ou vers l'orthodoxie, il assurait en quelque sorte une mainmise sur l'Église d'Orient. Déjà instrumentalisation par le pouvoir politique. Alors cette...
Justement, quel était l'enseignement de ces écoles, Jean ?
Alors, c'est intéressant. Ces écoles donnaient un caractère systématique qu'on trouvait... C'est une grande innovation, parce que rien de comparable n'existait dans les mondes grecs et latins, parce que les clercs de chrétiens autour de la Méditerranée, étaient formés intellectuellement dans des écoles non religieuses, qui étaient tenues souvent par des païens. Donc on apprenait Aristote et Platon, ainsi que la médecine, Galien, etc. Mais il n'y avait pas de formation liée spécifiquement au christianisme. Alors qu'à Nisibe, comme à Édesse, la formation est entièrement chrétienne. Le directeur de l'école est un interprète chargé du commentaire de la Bible, choisi dans le corps professoral. On l'appelle notre maître. L'étude de la Bible est répartie sur 3 ans. Le premier, première année, étude des épîtres de Saint Paul et du Pentateuque. Le deuxième année, les prophètes et les psaumes. Troisième année, les évangiles. Et les livres étaient étudiés suivant 7 angles d'approche correspondant aux 7 catégories d'Aristote. L'intention de l'auteur, l'utilité du texte, l'identité de l'auteur, l'ordonnance du texte, le motif de sa rédaction, la division en chapitres, le contenu.
Alors vous m'avez précisé que les élèves s'appelaient entre eux « mon frère » et qu'il y avait l'exclusion de l'école pouvant être prononcée pour différents motifs. L'instruction et la pension à l'école étaient gratuites.
Ah oui, alors l'exercice d'une autre activité était interdit, sauf pendant la période des vacances, qui pouvait être mise à profit pour gagner un peu d'argent. Donc on pourrait s'y croire complètement. Et au-dessous de l'interprète principal se situait un maître de lecture qui enseignait à lire correctement le syriaque, à chanter les cantiques et à composer des sermons. Alors ce qui est intéressant, c'est la pédagogie, parce que la formation, elle est faite sur la base de la poésie. C'est-à-dire que les élèves apprennent les textes et les homélies sous la forme d'un discours rimé, avec des rimes, un poème rimé et chanté. C'est-à-dire on chante ce qu'on apprend. Et le chant permet un enseignement tout à fait important. On conserve bien la mémoire de ce qu'on chante, beaucoup plus que quand on l'entend. Je devrais chanter les émissions.
On devrait essayer la prochaine fois. Je défie RCF comme d'habitude.
Alors, un grand maître de cette école s'appelait Narsaï. On en dira un petit mot la prochaine fois. Il meurt vers 503 et l'école continue à se développer. Près de 1000 élèves qui devaient prendre pension chez l'habitant parce qu'il n'y avait pas moyen de les loger tous. En 562, c'est intéressant, l'empereur Justinien conclut un traité de paix avec l'empereur de Perse. Et à Constantinople, il y a une conférence entre théologiens romains et orientaux. Vous voyez, on est déjà dans l'œcuménisme à l'époque. Et l'évêque Paul de Nisibe vient avec un document dogmatique rédigé par un des successeurs de Narsaï. Mais les orientaux se montrent tellement rigides qu'ils font échouer tout rapprochement entre les églises, qu'il n'y en aura plus par la suite. Malheureusement, l'église aujourd'hui qu'on appelle assyrienne ou chaldéenne, qui se trouve très très minoritaire, qui était en Irak, est encore reste coupée de toutes les autres églises chrétiennes. Et donc après, il y a eu beaucoup de persécutions de la part des Perses, puis ensuite les conquérants musulmans, et l'école de Nizib va passer petit à petit, va être fermée, et puis déplacée à Ctésiphon, la capitale des Perses, mais sans le même rayonnement.
Alors j'imagine qu'à l'époque, ces écoles étaient très influentes, Jean.
Oui, puisque c'est l'école de Nizib, était connue jusqu'en Occident. Un écrit d'un évêque Paul de Nizib, qui a été traduit en latin sous le titre « L'enseignement systématique de la théologie », a été connu en Orient, en Occident, en Italie. Et on disait d'ailleurs que cette science théologique venait d'une école des Syriens à Nizib, où la théologie est enseignée par des maîtres publics de la même manière systématique que les disciplines profanes de grammaire et de la rhétorique le sont par ailleurs. Il n'existait aucune école de théologie chrétienne comparable dans l'Empire romain de cette époque, c'est-à-dire 6e, 7e siècle. Alors, il ne faut pas oublier qu'avec ces écoles, la science et la philosophie grecque ont été transmises par l'intermédiaire des traductions syriaques aux Arabes, qui devaient plus tard les rendre à l'Europe du Moyen-Âge. Donc, les Syriaques sont le chaînon indispensable à comprendre entre la culture à la fois ancienne, antique, et la culture chrétienne syriaque, et à travers les Arabes, le Moyen-Âge occidental.
Merci Jean, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine où on parlera de Jacques de Sarrougue.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.